On y est. C'est le dernier épisode de notre série spéciale Noël sur les langues imaginaires. Et demain, les festivités commencent. Réveillon, gueuleton, dindon marron. Et pour un certain nombre d'entre nous, la période des fêtes de Noël peut aussi rimer avec marathon.
Marathon, je crois qu'on n'a pas tout à fait les mêmes traditions de Noël.
Que tout le monde se rassure, personne ici n'a l'intention de courir 42 km en sortant de table. Mais plutôt, comme souvent à cette période de l'année, de lancer un marathon dans ce goût-là.
Ah ouais, marathon Harry Potter. Là, effectivement, ça colle mieux avec l'idée que je me fais des vacances de Noël. Voir ou revoir les 8 films, c'est aussi l'occasion rêvée pour entamer les boîtes de chocolat qu'on a reçues en cadeau.
Les mots des autres. Le podcast de Courrier International sur les langues étrangères.
Ah merde alors, comment on dit
comment
ça?
Comment ça merde alors? Mais t'as l'air noir.
Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir.
Moi, mon truc, ce serait plutôt de me replonger dans les livres et de retomber en enfance en attrapant dans la bibliothèque les exemplaires tout cornés à force d'être lus et relus.
J'avais pris ça à la bibliothèque pour me distraire le soir.
Excellente idée. Rien n'empêche d'ailleurs de faire les deux. Alors bien sûr, on ne peut pas ne pas en parler. On a bien conscience que les propos transphobes de J.K. Rowling, l'autrice de la saga, ont créé pour certains fans une relation d'amour-haine avec son œuvre, voire un rejet complet. On se doit de le mentionner. Mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les langues imaginaires, impossible de faire l'impasse sur le texte original et surtout sur sa traduction.
Dans une série d'interviews publiées il y a quelques années, Gallimard Jeunesse posait cette question au traducteur français des 7 tomes de la saga, Jean-François Ménard.
Je voudrais d'abord faire appel à vos souvenirs de lecteurs. Quelles ont été les premières impressions qui ont été les vôtres lorsque vous avez découvert Harry Potter à l'école des sorciers?
Soyons très clairs, si c'était à moi qu'on avait posé la question, j'aurais répondu ça.
Je trouve ça merveilleux.
Et Jean-François Ménard répond quelque chose d'approchant.
Tout d'abord, évidemment, c'était le langage. Je suis très sensible à l'écriture d'un livre. Et là, j'ai découvert un langage différent, un langage inventé quasiment.
C'est vrai que des langages inventés, il y en a dans Harry Potter. Par exemple, la langue des sirènes, des géants, celle des trolls ou des gobelins. Cette dernière a d'ailleurs en anglais un nom aux sonorités loufoques, le gobbledygook, qui pourrait se traduire en français par charabia.
Et puis, il y a aussi le fourchelang ou parseltongue en version originale, celle qui permet à de rares élus de communiquer avec les serpents. Cauchemar des traducteurs et interprètes d'ailleurs, le fourchelang. C'est une langue qui a une particularité, elle ne s'apprend pas. Sa maîtrise est une faculté que possèdent de rares sorciers, comme le héros éponyme Harry Potter, et le grand méchant de l'histoire, Lord Voldemort.
Alors justement, on peut s'arrêter un instant sur Vous savez qui, ce mage redoutable dont beaucoup de sorciers n'osent pas prononcer le nom tant il est craint. Mais la difficulté réside ailleurs. Lord Voldemort est un pseudonyme que le personnage s'est choisi, un anagramme de son vrai nom. En VO, le jeune sorcier qui deviendra le Seigneur des Ténèbres s'appelle Tom Marvolo Riddle, qui donne « I am Lord Voldemort ». Pour arriver au même résultat en français, Jean-François Ménard a choisi de l'appeler Tom Elvis Jeu du Sort, soit l'anagramme de « Je suis Lord Voldemort ».
Je me suis toujours demandé par contre pourquoi certains noms ont été gardés en VO, comme Lord Voldemort ou Albus Dumbledore, tandis que d'autres ont été traduits. Par exemple, le professeur Severus Snape, qui devient Severus Rogue.
Alors ce nom, c'est justement l'un des exemples les plus frappants du travail d'orfèvre qu'a réalisé Jean-François Ménard pour traduire la saga. Le prénom Severus rappelle le mot sévère, en français comme en anglais. Il a donc été gardé. Quant à Snape, le nom de famille en VO du professeur de potions, ce serait un ancien verbe utilisé au Moyen-Âge qui signifie être dur avec quelqu'un ou réprimander. Pour éviter de perdre cet effet de sens, le traducteur a choisi un autre mot, rogue. Cet adjectif veut dire arrogant avec une nuance de raideur et de rudesse selon le Larousse. Ou encore méprisant, froid et rude d'après le petit Robert. Celles et ceux qui connaissent la saga ne pourront qu'approuver cette description.
Très finement joué de sa part, oui. Alors, on ne pourra pas s'arrêter sur tous les noms propres, sans quoi il faudrait y passer des heures, mais il va falloir tout de même parler un peu des lieux. Parce que la toponymie vaut le détour dans Harry Potter, et dans sa traduction. Prenons l'exemple de Poudlard, le nom en français de l'école de sorcellerie mondialement célèbre. Et laissons la parole au traducteur, que dis-je, à l'artiste.
En anglais, c'est Hogwarts, et c'est une inversion de Warthog. Warthog, c'est le facochère, c'est-à-dire littéralement le cochon qui a des verrues. Et je me suis dit, bon, verrues de cochon, c'est pas terrible. Alors j'ai essayé d'approcher quelque chose de pas très ragoûtant pour les verrues. Je suis arrivé à Pou et le cochon s'est transformé en lard.
Mais oui, Poudlard, Pou de lard, pour verrues de cochon, ça fonctionne bien. Et j'imagine que c'est la même idée pour le village de Hogsmeade, qui devient près au lard.
Exactement.
Par contre, il reste quelques mystères. Par exemple, à propos des maisons auxquelles sont affiliés les élèves de Poudlard. Gryffondor reste assez proche de l'AVO, puisque c'est Gryffindor en anglais. Slytherin devient Serpentard, ce qui s'explique assez facilement, parce que Slyther en anglais signifie ramper, serpenter. Il y a Hufflepuff, qui devient Poufsouffle, pour imiter les sonorités et garder le souffle qui se dit puff en anglais. Mais Ravenclaw, ça m'interpelle. Littéralement, ça pourrait se traduire par « serre de corbeau ». Or, en français, la maison vantée pour l'intelligence et la sagesse de ses élèves s'appelle serre d'aigle. Alors, pourquoi avoir changé de volatile alors que le corbeau est l'un des animaux les plus intelligents qui existent ?
Je crois que je peux éclairer ce mystère. L'emblème de la maison Ravenclaw est un aigle, animal auquel est souvent associée la sagesse, et pas un corbeau. Là où le nom anglais de la maison garde cette petite curiosité, Jean-François Ménard va plus loin dans la cohérence et choisit serre d'aigle. Plus facile à faire tenir en un seul mot en français que serre de corbeau.
Ah, merveilleux! Merci pour cette explication.
Alors, on pourrait continuer longtemps, évoquer des dizaines et des dizaines de noms de personnages, mais aussi de lieux, des objets...
Mais il est temps pour nous de vous souhaiter un joyeux Noël et un très bon réveillon, en espérant que vous avez dans votre vie quelqu'un pour vous offrir un gros pull en laine qui gratte, avec la première lettre de votre prénom dessus.
Joyeux Noël, Harry.
Joyeux Noël, Ron. C'est quoi ce pull ?